France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Mathieu Laurent. Bonjour.
Rebonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, des centaines de salariés d'ArcelorMittal devant l'Assemblée nationale, salariés plus qu'inquiets quant à leur avenir compte tenu des plans sociaux envisagés. Mais pas seulement, les députés examinent en cette mi-journée une proposition de loi déposée par la France Insoumise, texte qui plaide pour une nationalisation du géant de l'acier. Après son rejet par l'Assemblée nationale la semaine dernière, le projet de loi de finances démarre aujourd'hui au Sénat son examen en séance publique. Avec Stéphane Robert, nous entrerons dans le détail des ambitions de la droite majoritaire à la Chambre haute. Nous ferons également le point sur ces terribles incendies qui ont ravagé un ensemble de gratte-ciel de Hong Kong. Les secours, à l'heure qu'il est, sont encore à la recherche de 250 disparus, au moins 55 morts. Amnesty International lance une nouvelle alerte sur la situation à Gaza plus d'un mois après l'annonce d'un cessez-le-feu. Enfin, invité du journal Bertrand Kaufmann, chef de projet à l'INSEE. L'INSEE qui lance aujourd'hui un recensement exhaustif à Mayotte, un travail de nature à faire cesser les instrumentalisations politiques au sujet de la prétendue sous-estimation de la population du 101e département français. Ce sont deux approches, deux lectures de ce qui peut, de ce qui doit conduire à garantir à la France sa souveraineté économique, approche bel et bien divergente à la faveur d'une proposition de loi déposée par la France Insoumise et examinée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Texte, on l'a dit, qui plaide pour une nationalisation du géant de l'acier. Le Parlement, vers lequel ont convergé des centaines de salariés d'ArcelorMittal, plus qu'inquiets. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Mathieu.
Vous les avez rencontrés en fin de matinée, ces salariés. Que retenir de vos échanges avec eux ?
Eh bien, retenir que pour eux, pas de doute, hein, il y a urgence à sauver la métallurgie française du désengagement progressif depuis des années d'ArcelorMittal qui supprime des emplois, on l'a vu encore récemment, qui ferme des sites, qui retarde ses investissements pour moderniser ou décarboner les hauts fourneaux. Pour ces métallurgistes, pas de doute, la multinationale à terme va quitter l'Europe et concentrer ses investissements ailleurs sur la planète. Et à portée de mégaphone de l'Assemblée nationale, ils exigent que les dirigeants politiques s'engagent à nationaliser les activités françaises d'ArcelorMittal pour donner un avenir à cette filière si stratégique, la mère de toutes les industries, comme ils disent. Il faut reprendre ce qui nous appartient, lance au micro Sophie Binet, référence au fait que la sidérurgie française a déjà été nationalisée entre 1982 et 1995. Et puis derrière la banderole du métal sans mittal, sous les fumigènes de la CGT Dunkerque, voilà ce qu'en dit son secrétaire général Gaëtan Lecoq.
2021, 2022, 2023, rien que la société ArcelorMittal France a gagné 1,2 milliards d'euros. On donne 300 millions d'euros de subventions d'aide publique par an. La nationalisation, c'est 3 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on rentabilise les projets de décarbonation. Il n'y a aucun parti politique qui ne prenne pas la souveraineté nationale. Maintenant, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils viennent nous voir.
Et le débat, c'est cet après-midi au Palais Bourbon. LFI à l'initiative, mais on a vu des élus socialistes, communistes aussi venir apporter leur soutien à la nationalisation. Le gouvernement, bien sûr, y est très hostile, mais le résultat du vote ce soir semble surtout entre les mains du RN, franchement réticent à s'engager sur le sujet.
Merci à vous, Camille Magnard, devant l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Florent Bujon. Toute autre approche, c'est l'articulée ce matin chez nos confrères de France Info par le président d'ArcelorMittal France, Alain Legris de la Salle, pour lequel la nationalisation du groupe ne règle en rien le problème. La difficulté est ailleurs.
La plupart de nos sites en France sont compétitifs parce que le groupe maintient et a maintenu ses investissements. 1,7 milliard d'euros investis ces 5 dernières années sur les sites français. Nos sites sont exposés aujourd'hui aux surcapacités mondiales et aux importations destructrices des marchés européens. Donc, nous sommes face à une concurrence déloyale et la nationalisation ne règle en rien ce problème.
Vous l'entendez, il y a le sujet de la souveraineté. Produire de l'acier sur le sol national, surtout dans le contexte géopolitique actuel, c'est stratégique.
La souveraineté est un sujet européen. Oui. Les sites d'ArcelorMittal en France, de Dunkerque ou de Fos, ne livrent pas ou que très peu l'armement, qui est un secteur stratégique. Nous n'avons aujourd'hui en France qu'un seul site qui est Industrie Le Creusot, qui livre les métiers de l'armement ou du nucléaire, les centrales nucléaires en France. Ça, c'est de la question souveraineté. Et donc, quand on parle de souveraineté, on ne parle que de souveraineté européenne par rapport aux importations.
Le débat sur la pertinence de la nationalisation d'ArcelorMittal vous invite à l'écoute du billet politique de Jean Lémarie de ce jeudi 27 novembre sur franceculture.fr. Après son rejet par l'Assemblée nationale la semaine dernière, le projet de loi de finances démarre aujourd'hui au Sénat son examen en séance publique à la Chambre haute. Contrairement à l'Assemblée, il existe une majorité. C'est la droite sénatoriale qui fait la loi avec ses alliés de l'Union centriste. Et elle a l'intention de modifier le texte du gouvernement pour élaborer une loi de finances, dirions-nous, beaucoup plus en faveur des collectivités et des entreprises. Stéphane Robert.
Pour le budget 2026, la droite sénatoriale a l'intention de rendre une copie vertueuse en termes d'économie et de réduction de la dette publique. Elle fixe un objectif de déficit à 4,7% du produit intérieur brut, alors que le gouvernement, dans le cadre de ses négociations avec les socialistes, le situe plutôt juste en dessous de 5%. Pour ça, les sénateurs Les Républicains veulent faire voter une économie de 4 milliards d'euros sur le budget de l'État, en réduisant par exemple les aides aux investissements prévues dans le cadre du plan France 2030, en réduisant le nombre de fonctionnaires ou encore en rabotant le budget de l'aide médicale d'État qui sert à soigner les étrangers sans papier. Ils veulent aussi réduire l'abattement professionnel de 10% accordé aux retraités, réduire également le montant du crédit d'impôt accordé pour les services d'aide à domicile. Parallèlement à ces mesures d'économie, la droite sénatoriale entend alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises en supprimant par exemple la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés prorogée d'un an par le gouvernement. Pour compenser, elle propose d'augmenter la taxe sur les petits colis arrivant de l'étranger, notamment de Chine, taxe qui passerait de 2 à 5 euros par colis. Enfin, elle veut aussi réduire l'effort budgétaire demandé par l'État aux collectivités territoriales, qui passerait de 4,5 à 2 milliards d'euros. Les collectivités locales, affirment les sénateurs, ne sont pas responsables du creusement des déficits. Rappelons quand même que c'est au sein de ces collectivités qu'on trouve les grands électeurs qui, tous les 3 ans, élisent les sénateurs.
Stéphane Robert, purement militaire et volontaire, le nouveau service national dont le chef de l'État vient tout juste de dresser les grandes lignes à Vars, dans l'enceinte du 27e de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Service d'une durée de 10 mois, première promotion à l'été prochain. Emmanuel Macron.
Ce service national est un service des volontaires, sélectionnés ensuite pour répondre aux besoins de nos armées. Et le cœur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans. Ils serviront sous statut militaire, seront dotés d'un uniforme, d'une solde, d'un équipement. Nos jeunes du service national participeront à toutes les missions, de sentinelle à l'assistance aux populations, du terrain à l'état-major. Nos jeunes, je le dis avec clarté, serviront sur le territoire national et uniquement sur le territoire national, c'est-à-dire en métropole et dans nos outre-mer.
Le président prévoit quand même un cas dans lequel le service national pourrait devenir obligatoire en cas de crise majeure, dit-il. Sans plus de précision à ce stade, le Parlement pourra autoriser de faire appel aux jeunes dont les compétences auront été repérées lors de la journée défense et citoyenneté, rebaptisée journée de mobilisation.
Au Parlement européen, l'extrême droite espère, je cite, « inscrire dans la durée une majorité relative ».
Celle-là même qui lui a permis de faire barrage à deux textes environnementaux ces 15 derniers jours, dont hier la loi contre la déforestation reportée d'un an. D'ailleurs, la droite européenne annonce lancer un groupe de travail soutenu par l'extrême droite sur le financement d'ONG environnementales par la Commission européenne. Il leur est reproché d'avoir fait du lobbying déguisé lors de la précédente mandature en faveur du pacte vert que droite et extrême droite s'acharnent à détricoter ensemble vote après vote. Une nouvelle offensive d'apparence très réglementaire, mais en réalité très politique. Fabien Cazot est à Bruxelles.
Des ONG environnementales ont-elles tenté d'influencer les parlementaires pour qu'ils votent en faveur du pacte vert lors de la précédente mandature? Sans doute, reconnaissent certaines, c'est leur travail. Elles sont même accréditées dans les couloirs du Parlement européen pour cela. Mais ont-elles touché des financements de la part de la Commission européenne pour vendre son pacte vert aux parlementaires? Le soupçon est porté par le Parti populaire européen, dont est pourtant issue la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Parmi les parlementaires appelés à constituer ce nouveau groupe, groupe de travail, un tiers viennent par ailleurs des rangs de l'extrême droite. Les ONG dénoncent un théâtre politique destiné à jeter le discrédit sur leur travail qui se limite désormais à défendre les acquis environnementaux de la précédente mandature. Face au vote, où droite et extrême droite font désormais cause commune dès qu'il s'agit de voter contre le devoir de vigilance des entreprises, par exemple, ou hier encore pour reporter d'un an le règlement anti-déforestation. Les conclusions du groupe de travail sur les ONG, déjà très controversées, sont attendues pour dans 6 mois.
Fabien Cazot à Bruxelles.
Faisons le point à présent sur ces terribles incendies qui ont ravagé un ensemble de gratte-ciel à Hong Kong.
Une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est formée pour se détourner dans l'urgence d'effroyables scènes de souffrance, de panique et d'incompréhension face à cette tragédie. Les secours, à l'heure qu'il est, sont encore à la recherche de 250 disparus, au moins 55 morts dans ces sinistres qui se sont déclarés à 15h, heure locale. Isabelle Labéry.
Oui, la priorité des pompiers est maintenant de secourir les habitants toujours enfermés dans les étages supérieurs de ces tours vertigineuses de 31 étages qui se sont embrasées comme des bûches en plein après-midi. Le feu est maintenant sous contrôle, même si 3 tours, arrosées sans relâche, continuent de brûler. Plus de 4000 personnes, dont un grand nombre âgées à la mobilité réduite, vivaient dans ce complexe sorti de terre il y a 42 ans. Une enquête anticorruption a été ouverte. L'entreprise de rénovation des immeubles est mise en cause. 3 personnes travaillant pour cette société ont été arrêtées pour négligence grossière et homicide involontaire. Les bâtiments avaient été recouverts de bâches en plastique non conformes aux normes anti-incendie. Mais ce qui a aussi participé à la propagation des flammes, ce sont les échafaudages en bambou le long des façades. Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où l'on trouve encore ce genre de structure. En mars, justement pour réduire le nombre d'incendies trop fréquents, particulièrement dans les quartiers pauvres et denses, le gouvernement avait commencé à restreindre leur usage en annonçant que la moitié des chantiers désormais devaient être équipés de structures en métal. Le dirigeant John Lee a annoncé également une inspection de tous les grands chantiers de rénovation.
Amnesty International lance une nouvelle alerte sur la situation à Gaza plus d'un mois après l'annonce d'un cessez-le-feu. Dans un rapport publié ce matin, l'organisation continue à parler de génocide, non plus sous la forme de bombardements massifs, mais à travers des conditions de vie délibérément rendues intenables. Manque d'eau, d'électricité, de nourriture, refus d'accès à aide humanitaire. Les déplacements forcés continuent, les infrastructures vitales restent détruites et aucun accès n'est accordé aux enquêteurs internationaux. Nationaux, Claude Guibal a lu ce rapport.
Pour appuyer son propos, Amnesty International s'appuie sur un élément central, le maintien des restrictions massives sur l'aide humanitaire. Le mois dernier, selon l'ONU, plus de 6000 tonnes de matériel d'urgence ont été bloquées. Résultat, un accès à l'eau dérisoire, des infrastructures détruites, des réseaux d'assainissement à l'arrêt, des camps inondés lors des pluies de novembre. Autant de conditions qui, pour Amnesty, relèvent de cette destruction lente définie par la Convention sur le génocide. La situation est également critique sur le plan médical. Plus de la moitié des médicaments essentiels ne sont pas disponibles. Les hôpitaux manquent de consommables. Amnesty cite des médecins qui décrivent la mort de patients atteints de maladies pourtant facilement soignables en temps normal, faute de traitements accessibles. Il y a enfin la poursuite des déplacements forcés. L'armée israélienne contrôle plus de la moitié du territoire, une zone où les Palestiniens n'ont plus le droit de retourner. Ceux qui tentent de rejoindre leur maison sont pris pour cible. Dans les camps, les conditions restent dramatiques. Surpopulation, absence d'eau potable, d'électricité. Pour Amnesty, rien ne montre dans cette situation un changement d'intention. Israël continue d'empêcher l'accès de Gaza aux journalistes, aux enquêteurs, aux mécanismes internationaux de justice. Autrement dit, malgré l'arrêt des bombardements continue, les conditions de vie imposées aux Palestiniens restent, selon l'ONG, calculées pour provoquer leur destruction physique.
La garde nationale déployée à Washington après qu'un ressortissant afghan a ouvert le feu sur 2 de ses membres affectés à la surveillance des environs immédiats de la Maison-Blanche. Les 2 militaires sont grièvement blessés. Le tireur, arrêté sur le champ, est dans un état critique. Le président américain a aussitôt promis de renforcer ses politiques anti-immigration. Selon la chaîne Fox News, le suspect, âgé de 29 ans, avait travaillé avec l'armée américaine et la CIA en Afghanistan.
Combien d'habitants vivent réellement à Mayotte ?
Eh bien, pour répondre à la question, l'INSEE lance aujourd'hui un recensement exhaustif dit hors norme sur l'archipel. La population du 101e département français ne cesse de nourrir des argumentaires de la part de certains corps politiques. Objectif ? actualisé des chiffres qui datent de 2017. Dernier recensement exhaustif et dressé un portrait détaillé de la population, de ses nationalités à ses conditions de logement. L'INSEE maintient, elle, son estimation de 321 000 habitants au 1er janvier 2024, au terme d'un recensement dit en continu, lancé en 2021 et interrompu par l'ouragan Chido du 14 décembre dernier. Le recensement enclenché aujourd'hui, on l'a compris, par l'INSEE, est un vrai défi. Bertrand Kaufmann, recensement, dont vous êtes le chef de projet. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bertrand Kaufmann, contrairement à l'Hexagone, où jusqu'à 70% des habitants répondent désormais par Internet, l'essentiel du recensement à Mayotte se fait par interview. C'est-à-dire que les agents vont arpenter le territoire, toquer à toutes les portes. En quoi est-il si différent des autres, ce recensement ?
Alors oui, une des grandes différences, comme vous le dites, c'est effectivement que la langue d'usage à Mayotte est le chimaoré essentiellement. Et donc, les agents censeurs prennent les documents qu'on leur a transmis et interrogent les gens plus que déposent les documents ou que la réponse par Internet, qui est un peu plus compliquée à Mayotte qu'ailleurs.
Pour maintenir...
Mais sinon, c'est la même méthode c'est la même méthode qu'en métropole.
Mais bon, vous êtes appuyé, par exemple, pour dire la particularité de ce travail, sur des indicateurs complémentaires, quant à la consommation du riz, le nombre de cartes SIM en utilisation. Voilà qui la valide, cette estimation tant controversée.
Oui, absolument, parce que voilà, le chiffre, comme vous l'avez si bien dit, est sujet à beaucoup de discussions et à beaucoup de fantasmes dans un territoire, ce qui est vrai, où il y a beaucoup de mouvements de population. Et donc, pour conforter un peu cette première estimation que l'on a de la population, on se sert alors des chiffres que vous avez cités, mais également des effectifs scolarisés. Et tous ces indicateurs montrent que notre prévision à 329 000, elle est relativement solide.
Avant de parler des difficultés possibles pour aller au-devant des populations les plus défavorisées, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez recruté ces agents qui vont incarner une administration française qui n'est pas toujours délicate à l'égard d'un certain nombre, d'une partie de la population de Mayotte.
Alors, l'INSEE, ici à Mayotte, s'est renforcé avec des collègues qui sont venus de métropole ou de La Réunion. Mais les agents censeurs, les 700 agents censeurs qui, à partir de ce matin-là, ont arpenté le terrain, ce sont des personnels communaux. Donc, c'est-à-dire que ce sont les communes qui les ont recrutés. Et pour ça, on a travaillé avec La Poste, France Travail, pour motiver les habitants de Mayotte pour postuler à ce poste d'agent censeur. Donc c'est bien des personnels communaux qui arpentent le terrain et non pas des agents de l'INSEE.
Bertrand Kaufmann, la pression est-elle sur ces populations les plus défavorisées dont je viens de parler, qu'elles risquent fort de vivre ce recensement comme une pièce qui ouvre la porte à des arrestations et donc à des expulsions ? C'est immanquable ou presque ?
Non, alors pas du tout. Alors, contrairement à ce que l'on peut croire, même les populations illégales sont souvent les plus faciles à recenser. Ce matin, on a recensé, pour vous donner juste un exemple, ce qu'on appelle les camps africains, c'est-à-dire des camps de réfugiés d'Afrique de l'Est, d'Érythrée, d'Afrique des Grands Lacs. Il y a près de 400 à 500 personnes qui s'entassent dans des conditions très difficiles, c'est vrai. Et la mairie de Mamoudzou les a recensés sans heurts, sans difficultés. Et au contraire, ces personnes, en se faisant recenser, valident leur présence sur le territoire. Et donc, objectivement, je dis pas que c'est simple le recensement, il y a des quartiers plus difficiles, mais c'est pas les populations les plus paupérisées qui sont les plus difficiles à recenser.
Et voilà qui est, comme on le dit, contre-intuitif. Bertrand Kaufmann, comment on peut se construire une idée précise du nombre d'habitants de Mayotte, compte tenu de ce que vous avez dit ? Et il faut chercher maintenant comment assurer que l'autorité de cette donnée ne soit pas contestée.
Oui, alors depuis maintenant, on prépare ce recensement depuis maintenant 10 mois avec les communes, depuis le Chido, voilà, on a travaillé avec la préparation de ce recensement, on a alerté les communes, on fait de la campagne de presse en français et en chimaoré, on essaye d'avoir le maximum d'impact auprès des populations, et les agents censeurs, là, puisqu'on en parlait il y a à l'instant, souvent ce sont des habitants des quartiers, et donc qui sont capables de connaître leur quartier, de dire « Ah bah tiens, derrière telle colline, il y a 2-3 logements qui sont cachés par la végétation, mais je sais qu'il y a des habitants. » Et donc, on essaye de travailler au plus près de chaque quartier pour être sûr de n'oublier personne.
D'un dernier mot, Bertrand Kaufmann, dernière question. Sans parler de blessures, c'est le directeur général de l'INSEE qui a évoqué une forme d'étonnement et de déception d'être à ce point contesté. Blessure, c'est un terme qui vous convient, enfin, qui est conforme à ce que vous avez pu ressentir ?
Moi, je ne fais pas de sentiments en tant que statisticien, mais la critique, elle est toujours recevable, bien sûr. Il ne faut pas se croire qu'on est à l'abri des erreurs. Donc, bien sûr, on accepte la critique. Maintenant, je pense que l'INSEE est capable d'expliquer par A plus B quelle est la méthode qui a été utilisée. Les 700 agents censeurs vont toquer à toutes les portes, vont compter les gens un par un. Je l'ai encore constaté ce matin avec des agents très motivés sur Kungu. Et donc, on a une méthode et une méthodologie qui est solide et que l'INSEE maîtrise.
Merci à vous, Bertrand Kaufmann. Kungu, deuxième ville de Mayotte. Objectif donc de ce recensement dit exhaustif. 700 agents recenseurs qui sillonneront le département jusqu'au 10 janvier et fournir une estimation précise des habitants du 101e département français. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Louise Guérin pour la préparation de cet entretien. 7 morts et des disparus, c'est le dernier bilan en date communiqué par les autorités françaises après un glissement de terrain à Tahiti qui a enseveli 2 habitations dans l'est de l'île. Quelques mots de la météo pour refermer ce journal. Beaucoup de nuages du nord de l'Aquitaine aux Ardennes, de belles apparitions du soleil en plaine d'Alsace, de la neige à 1000 mètres sur le relief et en cours d'après-midi, une nouvelle perturbation arrive sur la Bretagne. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Raphaël Rousseau.